Here we go with the main event of the evening. Let's get ready to rumble!
Vite, paf, droite, gauche, droite. Sur les ondes pour mon bla bla bla. On y croit, naturopathie. Lymphe de Rosemont, Arturo Garci. On va jouer, carte sur table. J'en pense quoi du combat de Jean-Pascal? On va passer pro, boxe et podcast. Laurent Sicot parler, bienvenue sur le podcast.
En direct de ton podcast préféré, Laurence écoute parler. Le podcast, l'autre fois, j'étais chez nous en Bédène, classique. Puis là, je me disais, le monde à la maison, là, sont chanceux en taparouette de m'avoir. J'ai dû regarder cette semaine là, la couverture sur Beterbiev contre Callum Smith. On essayait de nous faire croire à quel point Callum Smith est dangereux. Il y a 50 journalistes là-bas. Pas un, pas deux, pas trois, 50. Je vais te dire une affaire, ce qui les intéresse, là, et je vais mettre 50 personnes de côté dans la même phrase. Ce qui les intéresse, c'est de manger à la bête puis de jaser avec Régis Labombe. On dirait qu'on n'a rien su. Genre, on n'a pas su James Buddy Meggert. Pas vu d'article avec. Pourtant, c'était l'entraîneur de Gatti. Le Gatti Junior qui est en train de monter. En tout cas, juste dire qu'on dirait que tout ce qu'on avait, c'était des gens pour nous rappeler à quel point Callum Smith était beau, grand et fort, puis qu'on prenait un peu les propos des promoteurs. Mais c'est certain que, tu sais, du côté de Bob Arum, il va te dire que Callum Smith, c'est la fin du monde pour augmenter la valeur de son boxeur Beterbiev. C'est le problème en boxe, c'est qu'on demande à des gens qui sont affiliés aux boxeurs de nous raconter. Tu sais, si tu demandes, je sais pas, moi, je l'aime Samuel Descaries de Relais, je l'aime Marc Ramsey, Camille Estéphane, Antonin Descaries, mais ce sont des gens qui sont reliés contractuellement, qui sont reliés à l'équipe, tu sais, fait Eye of the Tiger, fait je comprends pas trop, genre, au hockey, il y a une tonne de spécialistes, on va pas demander à Marc Bergevin d'analyser le travail de Philippe Danault. C'est son assistant DG. Fait que là, j'aimerais que, dans le monde de la boxe, on développe moi-même, tu sais, un spécialiste hors compagnie, tu sais, qui peut vous dire les vraies affaires comme exemple. J'aurais pu vous dire que Callum Smith, c'était pas dangereux. Pourquoi? Parce que l'impression que j'ai, c'est qu'au lieu de mettons que je me lève un matin, moi, puis j'apprends que Callum Smith est l'adversaire de Arthur Beterbiev. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que A, j'appelle Camille pour savoir s'il est dangereux, B, j'appelle Marc Ramsey pour savoir s'il est dangereux, ou C, j'appelle Eddie Hearn pour savoir s'il est dangereux? Mais non. D, j'ouvre mon YouTube et j'écoute les derniers combats de Callum Smith. Je découvre que sous pression, il a l'air d'un cheval de reculons d'une chaloupe contre Canelo. Je découvre que sous pression, il a mangé plein de shots d'un boxeur qui vient des 160 en John Ryder. Ensuite, je regarde mon gros Arthur, puis lui, il nague des 175, gros et pesant comme Marcus Brawny. J'aime ça dire Brawny depuis que Jeff Jeffrey dit ça à tue-tête au 91-9. Moi, je dis Marcus Brown, mais lui, il dit Brawny. Il a knocké, tu sais, Callum Johnson qui l'a envoyé au tapis, s'est relevé, il l'a fini. Alexander, en passant, Alexander Vozdik était le meilleur boxeur de l'histoire des adversaires de Beterbiev, un type qui a gagné le bronze aux Olympiques. Arrêtez, là. Callum Smith, c'est le plus dangereux. Pourquoi? Quelqu'un m'a dit ça. Ça marche pas de même. Je vais casser. Mais pour vrai, je vais casser quelque chose chez nous. Je suis tanné. C'est le plus dangereux. Callum Smith, c'est le plus dangereux. Pourquoi? Ben, Beterbiev est rendu vieux. Mais ça marche pas de même, genre. Regardez les combats. Je suis tanné, moi. Mais pour vrai, je vais casser quelque chose. Je me retienne. Ma table Ikea, c'est moi qui l'ai montée moi-même. Elle casserait assez facilement, merci. Fait que là, on arrive dans un combat. Beterbiev gagne toutes les rondes. Là, moi, j'étais avec 9 amis chez nous. Oui, mais c'était pas le plus dangereux. Mais je t'ai pas dit ça. Ouais, mais j'ai lu. Ah, ouais, mais je sais pas quoi te dire. Ben non, c'était pas le plus dangereux. Il a fait pareil comme les autres adversaires, il s'est fait knocker. Fait que je trouve que. Puis vous autres à la maison aussi, arrêtez de croire tout ce que je vous dis, là. Il va falloir que collectivement, pour devenir des amateurs de boxe adultes, on apprend l'adversaire. Je sais pas, je vais donner un exemple. On apprend que Carlos Góngora est l'adversaire de Bazinian. On va vous dire c'est l'adversaire le plus dangereux de l'histoire de Bazinian. Peut-être. Mais prenez votre box, votre YouTube, écoutez deux combats, concentrez-vous, allez voir les... arrêtez de croire ce qu'on vous dit. C'est ça que je veux vous dire, genre, c'est que on peut pas demander aux gens qui ont des billets à vendre ou qui ont des boxeurs à promouvoir d'être aussi ceux qui nous disent qu'est-ce qui va se passer. Puis c'est bien correct, là, genre, si on leur demande, moi, je veux dire, demain matin, si je pars Laurent Poulain promotion, puis que je signe, donner un exemple, je signe, quel exemple je pourrais vous donner, je signe, je sais pas, moi, Tamara Thibault. Mais Tamara Thibault, c'est un mauvais exemple parce qu'elle est vraiment bonne, mais je vais vous dire, elle va réinventer le livre des records, puis elle va rincer Clara Sochius avec une main attachée dans le dos. Ben là, c'est le promoteur qui parle, tu sais. C'est l'agent, tu sais. Fait que là, c'est de faire cette fine ligne-là que les agents, les promoteurs, c'est pas des descriptifs, c'est pas des analystes. Les analystes, c'est moi. Demandez-moi toujours à moi. Puis encore là, croyez-moi pas, allez voir les YouTube après. C'était un peu ça mon point de mon éditorial du début. Je me demande si on était bien servi par le travail journalistique le mois, la semaine avant le combat. Sinon, après tout ce négatif, il faut dire que je dirais « wow », tu sais, 10 000 spectateurs aujourd'hui, c'est quasiment 35 000, sont que il y a 20 ans. Beterbiev qui l'emporte, qui sourit au 7e, qui sourit à pleines dents, qui dit qu'il est heureux de pouvoir s'être battu ici. Peut-être même la dernière fois qu'il se bat ici, tu sais, il doit lui rester entre 2 et 3 combats dans le corps, avec une grande performance, ok? Avec Eddie Hearn du bord du ring, avec le fait qu'on sait que c'est réglé, possiblement réglé pour affronter Dimitri Bivol. Tu sais, rappelez-vous que Wilder puis Joshua, c'était réglé, mais Wilder n'a pas gagné. Là, ici, est-ce qu'on pouvait revivre la même chose où, tu sais, Bivol a battu Lyndon Arthur? Puis là, il fallait se poser la question, est-ce qu'on a mis la charrette devant les bœufs trop vite? Puis Beterbiev, lui, ne battra pas Callum Smith. Il était tellement dangereux, Callum Smith. Mais là, finalement, non. Ça a bien été. Puis, ça a assez bien été, merci. Puis c'était une journée... parfaitement réussi, tu sais, puis juste la seule affaire, moi j'aime ça chialer, mais je me dis, tu sais, vous prenez ça positivement, pourquoi partir la carte à 5h30 si tu dois le combat final à Top Rank à 11h? Moi, des fois, la vie, je vois ça comme un match des Canadiens, tu sais, je suis allé cette semaine au Canadiens, puis après, je vous dirais 2h40, j'en avais ma claque, fait que j'imagine que Québec, c'est à 5h30, puis ça finit à minuit et quart. Et mon Dieu, ça fait vraiment longtemps que tu es assis sur tes fesses. J'aurais probablement capoté ben raide, que j'aurais pas été capable d'endurer ça. Donc, en gros, mon point, là, c'est que l'attention des gens devrait être proportionnelle au temps passé sur tes fesses. Donc, on devrait faire s'arranger que les gars-là durent 3h30. Okay? Ça, c'était ma philosophie. Tu commences ça à 7h30, puis tu essaies de finir ça à 11h45. J'ai dit, à un moment donné, ça, mais déjà là, c'est 4h15, mais il me semble que je suis pas capable de rester à 6h. C'est peut-être mon problème de déficit d'attention. Hier, bon là, la victoire de Beterbiev, c'est merveilleux. Tout ce qui reste, c'est de trouver une date, puis de s'entendre avec Bivol. Tu sais, il va falloir qu'il soit sympathique, là. Il y a 3 ceintures, Bivol en a une. Il va falloir qu'il accepte de séparer la bourse 50-50. On rappelle, des fois, les boxeurs vont jouer la grosse tête. 75-25. À la limite, 66-33. Il va falloir que, tu sais, Beterbiev soit, OK, 50-50. Je mets de l'eau dans mon vin pour obtenir le combat contre Bivol d'unification complète, donc de Undisputed. Et Ben, c'est ça. Là, ce qu'on va voir, c'est une game politique, à savoir s'ils vont s'entendre, hein, ces deux comiques-là. Bivol dit qu'il a déjà signé. Buterbiev avait l'air à dire que c'est de la merde. Fait qu'on va le découvrir. Mais une chose que je peux vous dire présentement, c'est que Buterbiev est le plus meilleur boxeur de l'histoire du Canada. Il n'y a plus de doute présentement. Hier, au Centre Vidéotron, grande réussite, 10 300 billets. Les images sont belles à l'international. Eddie Hearn était là, les frères Smith, Martine Vallière-Bisson. Moi, je ne suis pas allé parce que je vais vous le dire, moi. Là, le temps, c'est de l'argent. Okay? Mais le temps, tu sais, l'argent, ça a une valeur, mettons 1 000 $. Okay? Tu sais que c'est 1 000 $. Mais l'argent, le temps, pour moi, ça a une valeur qui n'est pas calculée comme de l'argent. Tu me donnes 7 heures de libre. Ah, je peux lire, je peux jouer à des jeux, je peux aller courir, je peux marcher, je peux jaser avec mes amis. Ça a une valeur, cette heure de temps. Puis ça ne me tentait pas de la passer assis dans une voiture, en pleine tempête. Le gars-là finit à 1h15, 3h30 de route pour revenir. Tu te couches à 5. Non, non, non. Moi, je suis rendu vieux, OK? Puis les vieux, on vit en vieux. Puis c'est pas vrai que je vais me prendre une chambre d'hôtel. Je vais payer 3 jours à l'hôtel. Moi, j'ai même pas d'auto. Là, je peux me ramasser coincé partout, dépendant des autres. Je veux rien savoir. J'ai écouté le combat chez mon ami Joe, dans ses bras. Le meilleur divertissement, c'était son fils qui courait dans le plancher à une vitesse assez vertigineuse à travers les obstacles. Donc, j'ai même eu la chance, pas pour me vanter, mais j'ai écouté le combat avec Marie-Pierre Houle. Puis Marie-Pierre Houle, c'est du matériel à mariage. D'un, est en superbe condition physique, est toujours de bonne humeur, elle a le sourire imprégné dans la face, est belle, est gentille, est serviable, est adorable. Si j'étais son conjoint, ça, tu demandes ça en mariage tout de suite, tu niaises même pas, t'attends pas. Ça, tu rencontres ça le mardi, si t'as marié lundi soir dans la même semaine. Donc, c'était mes commentaires. Puis, j'ai eu la chance d'écouter le combat avec Marie-Pierre Houle. Fait que là, on était très bien. Wilkins Mathieu, bon, je vais y aller avec l'ordre des rondes, OK? C'est les combats qui étaient sur 4, après ça 6. Wilkins Mathieu a battu José Arias Alvarez, un pauvre type qui peinait un peu à se défendre très, très... avec un bon menton, là. Mais on a mangé une joie le vert, là. Un homme de 39 ans. Il avait fait la limite. Il n'avait pas gagné un round contre Alexandre Lang. Et là, il n'a pas gagné un round contre Wilkins Mathieu. Message au matchmaker, okay, vous pouvez le barrer celui-là, ramenez-moi le pas. Victor Hugo Flores s'est fait geler en partant contre Moreno Fandero. Fandero, ça m'a fait sourire ça, faut que je vous raconte ça à la maison. Fandero boxait en sachant que s'il réglait ça vite, il reboxait dans 12 jours contre Ricardo Lara. Donc déjà à son 4e combat, il envoie Lara. Lara qui a fait la limite avec tout le monde au Canada, sauf un ou deux, mais qui a tout fait ça à 140. Puis là, il revient à 160 contre Ricardo Lara. Fait que j'ai un peu souri, genre, mais ça, c'est un vieux truc de matchmaker, là. Tu dis, ouais, ouais, ouais. Qui a engraissé récemment, qui a une tonne de comparables au Québec? Fait que là, mec Moreno, il gèle Lara. Les gens vont dire, ah, pourtant, il a fait la limite avec Wilcox. Ouais, mais Wilcox fait 140, ton gars fait 165. Ben oui, mais personne va dire... Tu sais, t'es en train de boire 2-3 cognacs, tu mets un chip de chaque bord, c'est un poulet général Tao, tu regardes les ring girls, le gars à côté te dit, lui il a fait la limite avec Wilcox, tu commenceras pas à dire, oui, mais il était plus léger. Non, 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 tu repiges dans ton général Tao, puis là ça te rentre dans la tête, tu sais, plus vite que Wilcox. Pis c'est de même qu'on crée des fiches. Mais Mehmet Ünal affrontait Dragan Lepay, ça m'a surpris, le gelant partant. Puis Lepay, lui, a fait la limite avec Giovanni De Caroli. Il avait fait 2 rondes, par exemple, avec William Skull. Puis là, c'est intéressant parce que William Skull est aspirant numéro 1 à IBF. Moi, je vais vous dire une affaire. Mehmet Ünal, c'est le prospect qu'on ne voit pas arriver. C'est celui qu'on ne pense pas. Mais c'est peut-être celui qui va aboutir. D'ailleurs, je pense que je vais écrire un texte sur Mehmet Ünal. Moi, il me fascine, ce jeune-là. C'est un jeune fascinant, ça, un Turc. C'est mon prochain sujet. Je vais vous parler de Mehmet Ünal et de la Turquie. D'ailleurs, moi, je connais bien la Turquie. pour l'avoir vu sur Google. Fait que je vais m'occuper de ça tantôt. Christopher Guerrero, lui, a souffert le martyr contre Sergio Garcia Herrera. Plusieurs ont dit que Guerrero a peut-être été remis un peu sur la carte de l'humilité. Il affrontait Herrera qui était 7-3, un bonhomme de 26 ans. Herrera, il avait une pas pire fiche, hein. Il était tout le temps compétitif contre tout le monde. Il ne fallait pas trop que tu regardes sa fiche. Il avait surpris un boxeur canadien de 8-0 l'année passée au deuxième round. Christopher devra retourner sur les planches à dessin et continuer à monter les échelons. Iman Kataev avait un adversaire de remplacement en Mikal Ludwigsak. Il l'a gelé au deuxième. Ça faisait pas vraiment de sens comme adversaire de remplacement. Jason Moloney contre Saul Sanchez, un combat incroyable. Je veux dire, ils nous ont prêté un combat de championnat du monde. Ça prenait un domicile à un combat de championnat du monde. On a hérité de Moloney-Sanchez et c'était extraordinaire. Quel grand combat. Et pour vrai, je commence à m'en remettre. Victoire de Moloney par majority decision. Christian Mbili. Et là, je vais vous le dire, c'est spectaculaire la façon qu'a Mbili d'assommer ses adversaires. Mais il profite du petit ring qui a été négocié pour Beterbiev, passe Murdoch dans mitaine. C'est spectaculaire, mais c'est parce que c'est étrange, hein, parce que autant c'est spectaculaire de défoncer le numéro 15 Boxrec comme ça, autant on est tous au courant que c'est pas la bonne méthode quand t'arrives contre Benavidez, Canelo ou David Morel, tu sais, c'est comme... On le sait que c'est pas la bonne idée sur Morel, parce qu'il frappe comme un cheval. Fait qu'il va anesthésier, analgésier assez vite ton idée de rentrer à l'intérieur pour aller à la guerre, parce que lui... Parce que c'est ça qui est arrivé hier, c'est qu'il se faisait atteindre à qui mieux. C'était « Je t'en donne deux, tu m'en donnes un », tu sais. Mais contre David Morel, le 1... Il y a un genou qui va te partir par en arrière, tu sais, ou puis la tête qui va te partir au sol. Tu sais, ça marchera pas contre David Morel. Fait que là, sa façon de boxer est comme parfaite contre, tu sais, les gars du top 15, genre, elle serait... Même que là, je vois pas d'autres top 15 qui se feraient faire le coup, tu sais, je regarde ça. Tu sais, Saul Alvarez, Benavidez, James Munguia, ça pourrait passer contre John Ryder. Sergei Derevyanchenko, il boxe en joie le vert. Caleb Plant, il est technique. Andrade, technique. David Morel, il répondrait que le feu, puis ça revolerait. Ça pourrait passer contre Shishkin. Ozzy Iglesias, il appartient à Eye of the Tiger. Ça passerait pas contre Mili Kouziev, qui frappe avec des marteaux. Berlanga, des marteaux. Pacheco, des marteaux. Tu sais, là, ça a passé contre Murdoch. Tu sais, je commence à avoir de la misère à voir où est-ce qu'on va s'en aller avec ça, là, parce que... C'est un style qui ne passera pas contre l'élite, mais qui passe bien contre le top 15-20. Okay? Comme, je sais que ça a l'air fou ce que je vous dis, mais gardez-le en tête. Un style qui ne passe pas contre l'élite, mais qui passe contre le 15-20. Puis j'ai bien hâte de voir comment on va s'en aller avec ça, mais c'était spectaculaire. Là. Pour la télévision hier, tu avais juste le goût de crier « War ». C'est parfait. Et en grande finale, ben, la victoire de... Beterbiev sur Callum Smith. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir mon segment introduction avec cette histoire-là. On a la carte complète pour le 25 janvier, fait qu'on va la survoler, mais pas de façon trop sérieuse, ok? Parce qu'on va se garder ça pour le gala le 25. Moreno Fandero va affronter Ricardo Lara. John Orobio va affronter Juan Carlos Ramirez Garcia. On a Wilkins Mathieu qui m'a affronté un gars de 36-44, ça m'a fait rire. On garde Steve Claguette actif contre Marco Gonzalez Baladza, un 191 mondial. Évry Martin Duval affronte Jésus Gomez Adorno. C'est un gars de 6-0. On fait confiance à Duval. Si on y amène un gars de 6-0 qu'on ne sait pas trop. Un gars de 6-0, tu ne sais pas trop où son sommet. Marie Spencer, elle, va affronter Sonia Dreling. Content qu'on ramène Spencer. Il y a des rumeurs de combat à saveur canadienne le 7 mars pour elle. Spencer, c'est étrange, mais elle a juste à continuer à boxer et avoir des chances en championnat du monde. Puis, pourquoi pas une dernière chance? T'sais? Je dis, elle a 39 ans, elle veut demeurer active, son moral est bon. Bon, mais moi, j'aime ça l'avoir boxé. Fait que je dis, gèle Dreling ou Bola, simplement, sur un 10 rondes. Retourne en championnat du monde, puis pourquoi pas? Moi, là, Je veux dire, comme le rappeur Dogmatic, j'ai jamais cessé d'y croire. Éric Bazignan va affronter Billy Fagondo Godoy dans un combat. Je m'en allais dire ridicule, mais finalement, je vais dire ridicule. Tu sais, Bazignan qui est rendu classé partout, puis on a assez peur de trouver un top 20. Est-ce qu'on a, c'est parce que ça coûte trop cher? Est-ce parce qu'on le sait que ça passera pas? Mais Bazignan, il est plus protégé que quand le pape est venu chanter au stade olympique. Je comprends pas pourquoi. Puis là, Billy Fagondo Godoy, c'est tout croche. Un Argentin de 31 ans qui est usé à la corde. Je la comprends pas, celle-là. Je la comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aujourd'hui, je vais péter les plombs. J'ai vraiment une journée où je suis en colère. Ben non, c'est pas... J'en mets un peu, c'est du théâtre. Mais je trouve pas pourquoi... Je comprends vraiment pas le choix de Godoy. Ça, c'est clair. Et en grande finale, on a appris qu'Arthur Ziadinov allait affronter Albert Amiraïs. Puis là, j'ai comme crié au génie. Ziadinov a fait tout le camp d'entraînement d'Arthur Beterbiev. Foster s'est blessé, ça prend un adversaire de remplacement. Pourquoi pas le prendre direct au Canada dans celui qui viendrait se venger contre son ancien employeur? T'sais, c'est parfait, là. T'sais, tu te fais congédier à ta job parce qu'ils en ont engagé un meilleur. Toi, tu continues à penser que tu étais meilleur que ce gars-là. Puis un moment donné, boum, vous pouvez vous affronter, genre. C'est comme si on avait chacun notre van avec des colis à vider. Qui va vider le plus de colis, genre? Puis là, tu viens donner une leçon à ton ancien... employeur qui s'est trompé. Mais c'est ça que Ziadina va essayer. Puis il y a son agent, Gary Friedman. Il boxe pour une promotion dans Nouvelle-Écosse, je pense. C'est un gars qui sait quand même boxer, qui est grand. On va avoir toute une finale le 25 janvier prochain. Bravo à Eye of the Tigers pour celle-là. Puis tant qu'à être là, on a appris que Volny allait affronter DeAndre Ware et que Custio Clayton allait affronter Courtney Pennington. Spencer Wilcox va être sur la même carte. Il commence à avoir des bien belles affaires à Halifax, puis dans l'Ouest, dans l'Est canadien. Bravo aux gens ailleurs au Québec qui s'organisent et qui nous présentent des bien beaux galas. Tu sais, j'ai regardé ce qui se passe, puis on est gâtés de manière canadienne présentement. Je m'en confesse, j'adorais écouter le Dr. Mayu à CKC. Si tu recules, il y a 30 ans, moi j'ai à peu près 11 ans, puis j'écoute déjà le Dr. Mayu, puis je prends tout ce qu'il dit là, au sérieux. Okay? Moi, le Dr. Mayu, il a forgé pas mal l'être humain que je suis. Mais tu sais, j'étais pas d'accord avec tout. Tu sais, j'écoutais, j'apprenais, puis ça me faisait réfléchir après. Il est mort à l'hôpital de Trois-Rivières cette semaine avec l'aide médicale à mourir. On se rappelle du projet de loi de Véronique Yvon en politique. Le Dr. Mayu, c'est un ami du monde de la boxe parce qu'il était à tous les galas. Il adorait la boxe. Il s'installait. Puis c'est un homme sérieux. C'est pas un homme qui textait son cellulaire. Là. Il arrivait à la boxe. Il regardait. Il voulait rien manquer. Il regardait tout de A à Z. Il manquait rien. La boxe le fascinait. Pierre Mayu, surnom Doc Mayu, ça sonnait bien. Grosse barbe qui a aidé probablement à créer toute son image puis la polémique autour, le bruit autour. Décédé à 74 ans sur une infection au rein. OK. Bon, on l'a connu là, parce qu'il a été radié souvent pour ses propos à la radio quand il animait Un psy à l'écoute à CKAC. Il est né au Lac-Saint-Jean, il étudie la médecine à l'Université Laval, certificat en psychiatrie à McGill, spécialiste en schizophrénie, anime une tonne de radio. Mais savez-vous comment ce gars-là a été connu? Ça, il faut que je vous dise. Quand Denis Lortie est rentré faire une tuerie à l'Assemblée nationale, c'est le Dr. Mayu qui l'a évalué. Il était... Au début, ça, vous allez voir là, l'histoire, il y a 8 psychiatres qui évaluent le caporal Lortie. Il y en a un qui dit il est psychotique au moment des faits. Les 7 autres, non, il est parfaitement normal. Et Mayu, seul contre les 7, va les convaincre. Je pense qu'il en convainc 4 avec des arguments, ils jasent. Et là, ils font passer le caporal Lortie pour un type avec des problèmes psychotiques. Et là, c'est, ça change la peine, ça change... je pense que là, c'est plus une peine de mort, c'est une peine... En tout cas, je sais pas trop qu'est-ce qui change, là, mais... Bref, le docteur Mayu, c'est là qu'on l'a connu en 84. Puis tout le monde dit que c'était un bon médecin, qu'il était dévoué, que oui, tu sais, il se cachait pas qu'il aimait faire de l'argent. Ça aussi, au Québec, t'as pas le droit de dire ça, que t'aimes faire de l'argent. Moi, je vais vous dire, j'adore faire de l'argent, mais je sais qu'on n'a pas le droit d'en parler. Fait que c'est ça, il était dur à manipuler, il était dur à menacer, il avait même rarement peur, tu sais, tu peux courir après qu'un couteau, ça l'énerve. Il avait pas l'air d'un type très nerveux. Il a animé, moi je l'ai connu, un psy à l'écoute de 95 à 2002. Après, l'émission a changé de nom pour Doc Mayu à l'écoute, qui va changer pour Mayu à l'écoute. Ça, je l'ai écouté aussi. On parle de 450 000 auditeurs par jour en 2007. Pensez-y, c'est du monde en joie le vert. Moi, mon podcast est écouté par 300 personnes. Lui, c'était 450 000. Donc, c'est ça, le doc qu'on voyait toujours dans les galas de boxe, qui s'était lié d'affection pour... Simon Kane, qui était tellement impressionné. Il parlait beaucoup de comment il était impressionné de Arthur Beterbiev. Puis au final, il sera mort quelques jours avant d'aller au gala de Beterbiev. Il aurait été tellement impressionné de voir Beterbiev. J'imagine déjà ses grands yeux devant Beterbiev. Puis une petite anecdote comme ça, le Doc Mayu, il avait des béquilles pour marcher. Puis il disait que... Un jour, Mathieu Germain a passé, il a ramassé les béquilles, puis il se promenait, tu sais, comme en sautillant avec les béquilles, genre, il essayait ça, genre de marcher avec les béquilles. Puis Doc Mayu, il dit, c'est la première fois que quelqu'un va oser prendre les béquilles pour jouer avec, tu sais, puis il trouvait ça beau, tu sais, il disait, c'est drôle de voir Mathieu se promener avec ça, tu sais, il trouvait ça sympathique, lui, il disait, les gens... ont tendance à pas vouloir rire de ça, tu sais, puis lui, il était à l'aise. Il avait perdu sa jambe, et ça aussi, ça ajoutait à son personnage et à son folklore. Il avait perdu sa jambe alors qu'il aidait une dame qui avait à changer son pneu sur le bord de la route, qui avait eu un accident. Fait que là, il s'en va, la dame a comme eu un accident sur le bord de la route, il l'aide à changer, il l'aide, ou... non, c'est une dame, je me suis mêlé, c'est une dame qui a eu un accident sur le bord de la route, il vient pour l'aider. Il est comme penché, puis il y a quelqu'un qui est en boisson qui va y rouler sa jambe, tu sais, puis la jambe va rester prise dans l'essieu. Puis c'est ça que j'ai appris, c'est quand ta jambe est arrachée, ils peuvent pas faire une prothèse que tu peux porter 24 heures sur 24. Fait que à cause que c'est arraché, tu peux porter une prothèse une heure ou deux, mais après ça, tu es obligé de te promener en béquille. C'est pour ça que le doc avait simplement pas une jambe de bois, mettons. Fait que c'était mon histoire avec le Doc Mayu, un type qui a forgé un peu mon esprit. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'à l'époque du wokisme qu'on vit aujourd'hui, on n'a plus le droit de rien dire. Qui va remplacer le Doc Mayu? Je le sais bien pas. Cette semaine, je suis allé voir le Canadien de Montréal contre les Sharks de San Jose. Mon ami David-Alexandre Clapin m'avait payé un billet dans la zone Desjardins. Premièrement, j'ai mangé pas mal, là, tu sais, des hot dogs, 4 cornets, tu sais, vraiment mangé comme un cochon, là. Puis là, je me demandais, les Canadiens de Montréal, là, c'est beaucoup de monde, là, 21 000 jour après jour. On gagne jamais. Là, on a perdu contre la pire équipe de la Ligue. Tabarouette que c'est pénible. Genre, ils sont chanceux, ce sport-là, d'avoir des fans aussi loyaux. Et moi, j'aimerais ça organiser des combats de boxe tout croche, puis que mes 21 000 billets soient vendus, puis qu'on dise, faites-vous-en pas, le meilleur est à venir. Faites-vous-en pas, ça s'en vient, croyez-nous. La semaine prochaine, il y a un gala à Edmonton, puis pour vrai, c'est un gala bien ordinaire, mais il y a des combats féminins. Jordan Dobby va affronter Stefania Gonzalez-Franco et Alex Kubicki va affronter Isabelle Milan, la revanche. Fait que c'est pas mal la seule affaire que je vais regarder sur la scène. La scène canadienne, c'est assez tranquille. D'ailleurs, c'est vrai, moi, j'ai... Vous pouvez aller me lire maintenant, je suis rendu éditorialiste sur Punching Grace. Là, j'ai écrit un texte sur Callum Smith parce que j'essayais de contrebalancer le fait qu'on essayait de nous faire croire que Callum Smith était quasiment un top 5 dans l'histoire de la boxe avant le combat. J'ai essayé de balancer tout ça. Là, cette semaine, je pense que je vais écrire sur mon boxeur préféré, le frisé Mehmet Ünal. C'est pas impossible que... Je sais pas, je vais regarder ça demain. La semaine prochaine, on a des combats intéressants si on se rappelle d'où on vient, nous. On vient d'où? On vient du Québec. Natasha Jonas, qui a mis fin à la carrière de Marie-Ève Dicker, va affronter Michaela Meyer à Liverpool. Et Jeanne Mick, je suis particulièrement intéressé. Meyer qui monte chez les 147 livres. Jonas, qui, elle, était montée de 130 à 154, était descendue à 147. Meyer, elle, a passé de 135 à 140 à 147, mais elle est très grande. Ça devrait être du bonbon, ce combat-là, entre Jonas et Meyer. Pourquoi pas la gagnante qui défend son titre contre ma bonne amie Marie-Pierre Roule. Et j'aimerais ça parler à Marie-Pierre Roule. Marie-Pierre, écoute-moi. Tu vas y retourner en championnat du monde. Puis Kim Clavel, écoute-moi. T'es la meilleure boxeuse à pas avoir de titre dans ta division de poids. Entraîne-toi, on va te repartir. Kim, m'a géré s'il faut. Je vais donner ton gérant. On va retourner en championnat du monde. Au pire, on ira se battre à Porto Rico. Mais on ira chez les adversaires. Alors, regarde, Neri Plata vient d'aller en Allemagne gagner contre Sarah Bormann. On va trouver des combats. Je suis là, OK, si tu en as besoin. Christian Thun, qui est un de mes boxeurs préférés parce qu'il mesure 6 pieds 9, mais il a déjà une défaite, va affronter Jason Bergan. Christian Thun, j'ai une feuille mobile avec les poids lourds à surveiller. Puis lui, il est toujours sur ma feuille. Parce que c'est un Allemand de 6 pieds 9 qui habite maintenant en Floride. Puis il me fascinait, sauf qu'il a perdu contre Curtis Harper. Tu sais, fait que là, disons que il me fascine un peu moins, mais je surveille quand même. Là. C'est pas mal les combats de la semaine prochaine. Hein. Début d'année, tranquille. On attend la carte de Eye of the Tiger au Casino de Montréal. Maintenant, sur la scène internationale, qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine? Il y a eu, bien sûr, ce qui trône au sommet, Beterbiev qui a battu Callum Smith et qui demande pour affronter Dimitri Bivol. On va suivre cette politique-là derrière tout ça. Tu sais. C'est assez clair. Maintenant, Eddie Hearn dit qu'il est littéralement démoli, qu'il ne comprend pas ce qui est arrivé, qu'il s'attendait à tellement mieux pour Callum Smith et maintenant il lui demande de prendre sa retraite. Il a dit, regarde, t'étais ma vedette, t'as été massacré, va en paix, rejoindre tes frères à la retraite. Il y a, qu'est-ce que j'avais d'autre pour vous autres? J'en ai des nouvelles, 32 pages de nouvelles. Mbili, lui, c'est sûr que, première question qu'on lui a posée, Canelo, Mbili gagne Canelo. Là, Beterbiev, c'est pas pire, on y parle plus de Canelo, on y parle de Bivol, mais tu sais, c'est tout le temps la même affaire. Canelo. Puis le sans dessin à Canelo, il va affronter un 154 le 5. J'ai failli blasphémer. Il va affronter un 154 le 5 mai. À tous les années, c'est la même affaire. Canelo. Il va affronter Van Martirosyan pendant qu'on attend Benavidez. Fait que là, bien sûr, Mbili a dit qu'il était prêt pour Canelo. J'espère qu'on va trouver un entre-deux, tu sais, Vladimir Chichkin ou quelqu'un, tu sais, je sais pas. Arrangez-vous, moi, je suis pas promoteur, je suis juste descripteur de ce que je vois de mes yeux, vu. Ouais. Teofimo Lopez se déclare le roi des 140 et lance des défis. Il dit, pas grave, moi, que les fans puis que la réalité disent autrement. Moi, je suis le roi des 140. Ah ouais, t'es le roi. Ben oui, t'es le roi. Personne t'obstine. Tu veux être le roi, t'es le roi. Tu sais, amuse-toi. Bon, qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? Danny Garcia aimerait revenir et je pense que Danny Garcia, il va affronter Iris Lendi Lara. Il prétend qu'il va gagner. Je pense qu'il n'y a même pas de date. Puis après ça, il aimerait s'affronter Crawford. Bon. Garcia, tu sais, bravo. J'admire ta motivation. Floyd Mayweather est bien énervé parce qu'un combat entre Ryan Garcia et Rolando Romero, serais sur le point d'arriver. Rouli Romero, il est bien bon à l'attaque, pas même ce qui est un petit peu mauvais en défensive. Je sais pas ce que ça donnerait. Puis Garcia, ben j'ai hâte de voir si on va être capable de le relancer parce que c'est une superstar, mais il se passe rien. Teofimo Lopez, tenez-vous bien, a dit j'irais peut-être à 147, moi, contre Terrence Crawford. Je pense qu'il parle beaucoup. Je pense qu'il aime bien ça, parler notre chum Teofimo. Eddie Hearn à Québec a déclaré « J'ai tellement peur que Joshua perde contre Ngannou. » Joshua lui a déclaré que ça allait prendre deux rondes. Et moi, Eddie Hearn, j'en ai soupé, mais tout le monde est comme impressionné d'Eddie Hearn. Moi, il me tape ses nerfs, il dit tout puis son contraire, il rit du monde, il raconte ce qu'il veut. Eddie Hearn, tu me tapes ses nerfs. J'espère que ce sera pas traduit, là, pas le goût d'un... qu'il me croise en personne. Je pense qu'il mesure 6 pieds 5. Mais il se joue des journalistes, Eddie Hearn. C'est ça que je voulais vous dire de bien important. Teofimo Lopez... J'ai une page au complet. Il a aussi parlé de Devin Haney cette semaine. Bon. Le père de Devin Haney, ça va pas bien. Hein? Bill Haney, puis fille s'entretuer avec Bernard Hopkins. Je vais te dire une affaire, il y a des moyens zozo dans l'entourage des boxeurs des fois. Bon, selon Crawford, c'est réglé. Il va donner une revanche à Errol Spence qui, lui, s'est fait opérer au cataracte 6 mois après le combat. En disant, ouais, je voyais rien contre Crawford, je veux rien y enlever. Je me suis opéré 6 mois après le combat. Hey, Errol Spence, nous prends-tu pour des valises? Nous grattes-tu à poignée qu'on a dans le dos? Bon, ok. Jay Opetai annonce qu'il sera de retour. Lui, c'est bizarre. La IBF, il a enlevé sa ceinture trop vite à 200. Là, on sait tous, c'est le meilleur 200. Puis, on a l'air à triper dessus solide en Arabie. Fait que il sera de retour. William Zepeda contre Maxi Hughes. J'adore ces petits combats-là en Angleterre, la fin d'après-midi. 16 mars pour le titre IBF des légers éliminatoires. C'est pas un titre, c'est un rôle. 16 mars, William Zepeda, Maxi Hughes. Je serai devant ma télévision. C'est à peu près tout ce que j'avais sur la scène internationale. Et... ben, on retombe en mode... c'est réglé, là, le combat entre Beterbiev et Callum Smith. Fait qu'on retourne vers l'avant. On se dirige... On a Albert Ramirez contre Ziadinov. On a Bazinyan contre Godoy. On a Spencer contre Drelis. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Allons vers... les semaines qui suivent, puis on va les surveiller puis les analyser. Merci d'avoir été là, je vous aime tous profondément. Cette semaine, je suis allé voir le Canadien de Montréal contre les Sharks de San Jose. Mon ami David-Alexandre Clapin m'avait payé un billet dans Zone Desjardins. Premièrement, j'ai mangé pas mal, là, tu sais, des hot dogs, quatre cornets, tu sais, vraiment mangé comme un cochon, là. Puis là, je me demandais, les Canadiens de Montréal, là, c'est beaucoup de monde, là, 21 000, jour après jour, on gagne jamais. Là, on a perdu contre la pire équipe de la Ligue. Tabarouette que c'est pénible. Genre, ils sont chanceux, ce sport-là, d'avoir des fans aussi loyaux. Et moi, j'aimerais ça organiser des combats de boxe tout croche, puis que mes 21 000 billets soient vendus, puis qu'on dise, faites-vous-en pas, le meilleur est à venir. Faites-vous-en pas, ça s'en vient, croyez-nous. La semaine prochaine, il y a un gala à Edmonton, puis pour vrai, c'est un gala bien ordinaire, mais il y a des combats féminins. Jordan Dobby va affronter Stefania Gonzalez-Franco et Alex Kubicki va affronter Isabelle Milan, la revanche. Fait que c'est pas mal la seule affaire que je vais regarder sur la scène. La scène canadienne, c'est assez tranquille. D'ailleurs, c'est vrai, moi, j'ai... Vous pouvez aller me lire maintenant, je suis rendu éditorialiste sur Punching Grace. Là, j'ai écrit un texte sur Callum Smith parce que j'essayais de contrebalancer le fait qu'on essayait de nous faire croire que Callum Smith était quasiment un top 5 dans l'histoire de la boxe avant le combat. J'ai essayé de balancer tout ça. Là, cette semaine, je pense que je vais écrire sur mon boxeur préféré, le frisé Mehmet Ünal. C'est pas impossible que... Je sais pas, je vais regarder ça demain. La semaine prochaine, on a des combats intéressants si on se rappelle d'où on vient, nous. On vient d'où? On vient du Québec. Natasha Jonas, qui a mis fin à la carrière de Marie-Ève Dicker, va affronter Michaela Meyer à Liverpool. Et Jeanne Mick, je suis particulièrement intéressé. Meyer qui monte chez les 147 livres. Jonas, qui, elle, était montée de 130 à 154, était descendue à 147. Meyer, elle, a passé de 135 à 140 à 147, mais elle est très grande. Ça devrait être du bonbon, ce combat-là, entre Jonas et Meyer. Pourquoi pas la gagnante qui défend son titre contre ma bonne amie Marie-Pierre Roule. Et j'aimerais ça parler à Marie-Pierre Roule. Marie-Pierre, écoute-moi. Tu vas y retourner en championnat du monde. Puis Kim Clavel, écoute-moi. T'es la meilleure boxeuse à ne pas avoir de titre dans ta division de poids. Entraîne-toi, on va te repartir. Kim, m'a géré s'il faut. Je vais donner ton gérant. On va retourner en championnat du monde. Au pire, on ira se battre à Porto Rico. Mais on ira chez les adversaires. Alors, regarde, Neri Plata vient d'aller en Allemagne gagner contre Sarah Bormann. On va trouver des combats. Je suis là, OK, si tu en as besoin. Christian Thun, qui est un de mes boxeurs préférés parce qu'il mesure 6 pieds 9, mais il a déjà une défaite. Va affronter Jason Bergan. Christian Thun, j'ai une feuille mobile avec les poids lourds à surveiller. Puis lui, il est toujours sur ma feuille parce que c'est un Allemand de 6 pieds 9 qui habite maintenant en Floride. Puis il me fascinait, sauf qu'il a perdu contre Curtis Harper. Tu sais. Fait que là, disons que il me fascine un peu moins, mais je surveille quand même. Là. C'est pas mal les combats de la semaine prochaine. Hein. Début d'année, tranquille. On attend la carte de Eye of the Tiger au Casino de Montréal. Maintenant, sur la scène internationale, qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine? Il y a eu, bien sûr, ce qui trône au sommet, Beterbiev qui a battu Callum Smith et qui demande pour affronter Dimitri Bivol. On va suivre cette politique-là derrière tout ça. Tu sais. C'est assez clair. Hein. Maintenant, Eddie Hearn dit qu'il est littéralement démoli, qu'il ne comprend pas ce qui est arrivé, qu'il s'attendait à tellement mieux pour Callum Smith et maintenant il lui demande de prendre sa retraite. Il a dit, regarde, t'étais ma vedette, t'as été massacré, va en paix, rejoindre tes frères à la retraite. Il y a, qu'est-ce que j'avais d'autre pour vous autres? J'en ai des nouvelles, 32 pages de nouvelles. MBD, lui, c'est sûr que, première question qu'on lui a posée, Canelo, tu sais, MBD gagne Canelo. Là, Beterbiev, c'est pas pire, on y parle plus de Canelo, on y parle de Bivol. Mais tu sais, c'est tout le temps la même affaire. Canelo. Puis le sang de saint à Canelo, il va affronter un 154. Le 5, j'ai failli blasphémer. Il va affronter un 154 le 5 mai. À tous les années, c'est la même affaire. Canelo. Il va affronter Van Martirosyan. C'est pendant qu'on attend Benavidez. Fait que là, bien sûr, MBD a dit qu'il était prêt pour Canelo. J'espère qu'on va trouver un entre-deux, tu sais, Vladimir Chichkin ou quelqu'un, tu sais, je sais pas. Arrangez-vous, moi, je suis pas promoteur, je suis juste descripteur de ce que je vois de mes yeux, vu. Ouais. Teofimo Lopez se déclare le roi des 140 et lance des défis. Il dit, pas grave, moi, que les fans puis que la réalité disent autrement. Moi, je suis le roi des 140. Ah ouais, t'es le roi. Ben oui, t'es le roi. Personne t'obstine. Tu veux être le roi, t'es le roi. Tu sais, amuse-toi. Bon, qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? Danny Garcia aimerait revenir et je pense que Danny Garcia, il va affronter Iris Landy Lara. Il prétend qu'il va gagner. Je pense qu'il n'y a même pas de date. Puis après ça, il aimerait s'affronter Crawford. Bon. Garcia, tu sais, bravo. J'admire ta motivation. Floyd Mayweather est bien énervé parce qu'un combat entre Ryan Garcia et Rolando Rolly Romero serait sur le point d'arriver. Rolly Romero, il est bien bon à l'attaque, pas même ce qui est un petit peu mauvais en défensive. Je ne sais pas ce que ça donnerait. Puis Garcia, ben j'ai hâte de voir si on va être capable de le relancer parce que c'est une superstar, mais il ne se passe rien. Teofimo Lopez, tenez-vous bien, a dit... J'irais peut-être à 147, moi, contre Terence Crawford. Je pense qu'il parle beaucoup. Je pense qu'il aime bien ça, parler notre chum Théo Fimo. Eddie Hearn à Québec a déclaré « J'ai tellement peur que Joshua perde contre Ngannou. » Joshua lui a déclaré que ça allait prendre deux rondes. Et moi, à Dearn, j'en ai soupé, mais tout le monde est comme impressionné de Dearn. Moi, il me tape ses nerfs, il dit tout puis son contraire, il rit du monde, il raconte ce qu'il veut. À Dearn, tu me tapes ses nerfs. J'espère que ce sera pas traduit, là, pas le goût d'un... qu'il me croise en personne. Je pense qu'il mesure 6 pieds 5. Mais il se joue des journalistes Eddie Hearn. C'est ça que je voulais vous dire de bien important. Teofimo Lopez. J'ai une page au complet. Il a aussi parlé de Devin Haney cette semaine. Bon. Le père de Devin Haney, ça va pas bien. Hein? Bill Haney, puis fille s'entretuer avec Bernard Hopkins. Je vais dire une affaire, il y a des moyens zozo dans l'entourage des boxeurs, des fois. Bon, selon Crawford, c'est réglé. Il va donner une revanche à Errol Spence, qui, lui, s'est fait opérer au cataracte 6 mois après le combat. En disant, « Ouais, je voyais rien contre Crawford. Je veux rien y enlever. Je me suis opéré 6 mois après le combat. » Hey, Errol Spence, nous prends-tu pour des valises? Nous gratte-tu à poignée qu'on a dans le dos? Bon, OK. Jay Opetaille. Annonce qu'il sera de retour. Lui, c'est bizarre. La IBF, il a enlevé sa ceinture trop vite à 200. Là, on sait tous que c'est le meilleur 200. Puis, ils ont l'air à triper dessus solide en Arabie. Fait que il sera de retour. William Zepeda contre Maxi Hughes. J'adore ces petits combats-là en Angleterre, la fin d'après-midi. 16 mars pour le titre IBF des légers. Éliminatoire, c'est pas un titre, c'est un rôle. 16 mars, William Zepeda, Maxi Hughes, je serai devant ma télévision. C'est à peu près tout ce que j'avais sur la scène internationale. Et, ben, on retombe en mode... c'est réglé, là, le combat entre Beterbiev et Callum Smith. Fait qu'on retourne vers l'avant. On se dirige, on a Albert Ramirez contre Ziadinov, on a Bazinian contre Godoy, on a Spencer contre Drelis. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Allons vers les semaines qui suivent, puis on va les surveiller, puis les analyser. Merci d'avoir été là, je vous aime tous profondément.